Et voici le journal et une première information, le retour d'Anne-Laure Chouin. Bonjour Anne-Laure.
Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. Une situation très dégradée dans les collèges et lycées de Seine-Saint-Denis. Le phénomène est dénoncé depuis plusieurs semaines, mais devant le manque de réponse du gouvernement, les personnels seront en grève à nouveau ce lundi matin.
Gabriel Attal, lui, sera en visite à Nice dans un internat accueillant des élèves décrocheurs. Sa solution pour lutter contre les mauvaises fréquentations.
Et puis nous verrons qu'en Israël, la voix des pacifistes a du mal à se faire entendre. Marguerite Caton. Quelle question du jour après ce journal?
Les EHPAD publics risquent-ils la faillite?
Réponse à 7h15. Un lundi de rentrée sans rentrée dans plusieurs écoles de Seine-Saint-Denis. Cela fait des semaines déjà que le corps enseignant, les élèves et d'autres personnels de l'éducation nationale du département alertent. 32% de leurs écoles comptent une infestation d'insectes ou de rongeurs. 40% des collèges n'ont pas de médecins ou d'infirmiers. Et le total du temps scolaire perdu pour cause d'absence de professeurs se monte à un an. Des chiffres qui, depuis fin février, ont été à l'origine de nombreuses mobilisations et de la demande d'un plan d'urgence pour l'éducation en Seine-Saint-Denis. Les syndicats espéraient le déblocage de 358 millions d'euros, à la fois pour les bâtiments et pour rééquilibrer le ratio entre adultes et jeunes dans les établissements scolaires. Mais une rencontre avec la ministre de l'Éducation nationale, Nicole Belloubet, lundi dernier, n'a pas satisfait ces demandes, d'où ce nouvel appel à la grève en ce lundi de rentrée. Célia Goetti.
Aucun engagement du gouvernement en termes de moyens, c'est ce que déplore l'intersyndicale, mais aussi une mauvaise compréhension de l'échelle des besoins. Sur les surveillants ou AED par exemple, la ministre aurait proposé une dotation de 3 à 50 postes supplémentaires. Selon Émilie Benoît du syndicat Sud-Éduc 93, il en faudrait 650.
Dans un établissement, on revendique en général d'avoir 2 ou 3 AED de plus que ce qu'on a. Là, entre 3 et 50, c'est vraiment en effet ridicule.
L'intersyndicale évalue aussi à 5000 le nombre de postes d'enseignants supplémentaires nécessaires. Nicole Belloubet aurait répondu ne pas avoir les moyens. Pour Zoé Butzbach, co-secrétaire de la CGT Éducation 93, leur proposition de plan de financement n'a même pas été étudiée.
C'est dérangeant parce que nous, on est quand même à plus de 6 semaines de mobilisation. On a entre 70 et 80% des personnels qui ont fait grève au moins une fois. Et là, on nous dit, finalement, alors oui, on vous reçoit parce que la mobilisation est très forte, mais on n'a pas encore travaillé dessus. On va attendre un peu avant de travailler dessus.
Une mobilisation qui ne s'essouffle pas. Ce sera le 11e jour de grève de Julien Régnier, professeur de secondaire à Bagnolet.
C'est pas facile de faire grève et de ne pas accueillir les élèves. Mais en même temps, ce gouvernement n'entend que le rapport de force. Eh bien, on le maintient, ce rapport de force, par la grève.
Pour le professeur d'éducation civique et morale, manifester à Paris aujourd'hui fait partie du rôle de citoyen, celui d'être actif.
Mais ce n'est pas sur ce sujet précis des difficultés des collèges et lycées en Seine-Saint-Denis que se déplace aujourd'hui le Premier ministre et ancien titulaire de l'Éducation nationale, Gabriel Attal. Il sera pourtant dans un établissement scolaire, un internat à Nice, accompagné du garde des Sceaux Éric Dupond-Moretti. Internat qui accueille pendant les vacances une soixantaine d'élèves volontaires en situation de décrochage. Cette visite se fait dans la continuité des annonces du Premier ministre la semaine dernière à Viry-Châtillon. Et de son plan pour lutter contre les violences des jeunes. Parmi les mesures évoquées, en effet, envoyer en internat les adolescents qui, je cite, commencent à avoir de mauvaises fréquentations. Cela semble simple, a priori, mais dans les faits, c'est plus compliqué. Héloïse Roger.
C'est toute la question. Le gouvernement propose deux types d'internats. Le premier, des établissements ouverts pendant les vacances pour combler le temps libre des jeunes. Facteur de délinquance, selon Matignon, c'est ce dispositif que Gabriel Attal va inaugurer à Nice. L'autre formule, un internat à l'année pour les jeunes qui évoluent dans un environnement dit problématique. Pour François Dubé, sociologue spécialiste de l'éducation, ces déclarations relèvent de l'ordre de la panique et sont difficilement envisageables.
Soit les élèves sont obligés d'aller en internat à la suite d'une décision qui serait judiciaire. C'est pas faisable dans l'état actuel, mais ça pourrait être imaginable, oui. Mais de toute manière, les magistrats vont dire ça pose des problèmes du point de vue du droit des mineurs. Soit ce sont des solutions pédagogiques acceptées par les élèves, leurs familles, et dans ce cas, on voit assez mal quel est le statut de ces internats.
Gabriel Attal évoque 50 000 places disponibles en France, mais si elles viennent à être occupées, se pose alors la question du personnel.
Ça ne ne s'improvise pas d'encadrer des élèves en internat.
Sophie Vénétité, secrétaire générale du SNES FSU.
Il faut avoir une connaissance de ce qu'est l'adolescent, pouvoir être en équipe aussi pour encadrer ces élèves-là. On sait que dans les internats qui existent, on peut avoir des surveillants, des AED qui participent à la surveillance de l'internat, notamment sur le service de nuit. Mais il faut quand même rappeler qu'aujourd'hui, déjà, on manque de surveillants, on manque d'AED. Tout laisse à penser que soit on va être sur du bricolage, soit sur des effets d'annonce, mais encore une fois, rien qui n'aura été fait dans l'intérêt des jeunes.
La secrétaire générale du SNES FSU dénonce de la part du Premier ministre une vision de l'internat semblable à une punition, oubliant, selon elle, les dimensions éducatives et pédagogiques.
Et on reviendra sur cette thématique avec vos invités dès matin, Guillaume. Le niveau de vaccination des Français a progressé en 2023, mais doit encore s'améliorer contre certaines infections, notamment la rougeole en recrudescence. C'est ce que note un rapport de Santé publique France, alors que débute ce lundi la semaine européenne de la vaccination. La vaccination et plus généralement les pratiques de la médecine moderne, c'est tout ce que rejetait la secte appelée la grande mutation, dont le procès pour dérive sectaire, abus de faiblesse et exercice illégal de la médecine débute aujourd'hui. 6 personnes comparaissent devant le tribunal correctionnel de Paris. Dans les années 2000, le mouvement avait réussi à fédérer quelques 200 fidèles, dont plusieurs familles se sont constituées partie civile. Les précisions de Florence Turm.
L'influence de la grande mutation tient d'abord à la personnalité de son gourou. Étienne Guillet, ancien chercheur au CNRS, agrégé de physiologie biochimie, dans les séminaires qu'il anime en région parisienne, il se présente comme le sauveur d'une race élue qu'il entend soigner grâce à des mouvements de pendule au cœur d'une société diabolisée par diverses théories complotistes auxquelles vont adhérer quelques 200 fidèles, parmi lesquels l'ex-épouse de Gérard Feuillet, qui sera sur le banc des parties civiles pour raconter une vie familiale brisée et l'embrigadement de sa femme après 36 ans de mariage.
Il n'y a plus que ça qui l'intéressait. Les enfants venaient, venaient pas, c'était pas important. L'important, c'était la connaissance, je mets connaissance entre guillemets, des choses apportées par cette secte et en même temps, évidemment, la secte l'a fait couper de toutes ses activités. Elle chantait, elle avait une vie sociale importante, on avait été Amnesty International, etc. Et donc tout ça s'est arrêté. Si on parlait un tout petit peu de ce qu'elle faisait, tout de suite là, elle fermait. Elle ne voulait pas en parler, puisque aux yeux de la secte, ne croyant pas à ces choses-là, j'étais un individu nuisible.
Divorce, rupture familiale, mais aussi rejet des traitements de médecine classique, y compris pour soigner des cancers. On compte au moins un suicide parmi les adeptes de la secte, ainsi que 2 morts de graves maladies, dont la propre fille d'Étienne Guillet, le théologien du mouvement, lui aussi décédé en 2018 à l'âge de 81 ans. Ce sera donc le grand absent de ce procès. En revanche, son gendre et son petit-fils se retrouvent sur le banc des prévenus, aux côtés de 4 autres personnes poursuivies pour abus de faiblesse et exercice illégal de la médecine.
Et puis un peu plus d'un an après le verdict de première instance, le procès en appel de 2 proches de l'auteur de l'attentat de Nice sur la promenade des Anglais le 14 juillet 2016 débute aujourd'hui devant la cour d'assises spéciale de Paris. Mohamed Graieb et Chokri Chafroud avaient été condamnés à 18 ans de réclusion pour participation à une association de malfaiteurs terroristes criminels. L'attentat, on le rappelle, avait fait 86 morts, dont une quinzaine d'enfants.
7h08 sur France Culture, c'est la suite du journal d'Anne Lorchouin. Très en vue dans la guerre entre Israël et le Hamas.
Hier, dans une vidéo, et alors que l'État hébreu s'apprête à fêter le début de la Pâque juive, Benjamin Netanyahou a même promis, je cite, de nouveaux coups durs contre le Hamas à Gaza et d'y préparer de nouvelles étapes de la guerre. Plus de 6 mois après le massacre du 7 octobre, la société israélienne reste traumatisée et polarisée aussi, et le climat actuel rend quasiment inaudible les militants israéliens pour la paix. C'est ce qu'a constaté Omar Waman, envoyé spécial à Tel Aviv avec Eric Audra.
Les militants du mouvement Standing Together, ce qui signifie « debout ensemble », sont facilement reconnaissables avec leurs t-shirts violets. Ce qui frappe, c'est leur petit nombre, quelques dizaines à peine. Alon Lee Green, le co-directeur.
Oui, avant le 7 octobre, nous pouvions réunir plus d'une centaine de milliers de personnes. Mais le traumatisme est très grand. Et la propagande contre laquelle nous luttons est celle qui nous dit que c'est eux ou nous, les Palestiniens ou les Juifs. Nous, on dit non. Ils existent, nous existons, donc c'est soit nous vivons tous libres avec dignité, égalité et indépendance, soit c'est une destruction mutuelle.
Standing Together appelle notamment au retrait de l'armée israélienne de la bande de Gaza et à la relance du processus de paix. Une voix inaudible depuis le 7 octobre. Daniel longe le cortège avec son drapeau israélien. Il se dirige vers un autre rassemblement, celui pour la libération des otages. Il souhaite la fin du Hamas.
Non, je ne suis pas avec eux. Et pourtant, je suis un gauchiste. Je crois qu'il faut leur montrer que nous sommes forts. Beaucoup, beaucoup plus forts qu'ils ne le pensent. Et une fois que le Hamas sera à genoux, peut-être que l'on pourra envisager un accord et vivre ensemble, côte à côte. Mais pour l'instant, je soutiens l'armée et les réservistes.
Les activistes de Standing Together savent que dans ce contexte, leur combat est symbolique, mais ils restent déterminés à faire entendre une autre voix.
Élargir les sanctions contre l'Iran après ses attaques sur Israël, mais aussi examiner les moyens de renforcer la défense ukrainienne contre les attaques de drones russes. C'est l'objet d'une réunion ce lundi à Luxembourg des ministres des Affaires étrangères européens. Et puis une bonne nouvelle pour Kiev qui est venue ce week-end de Washington où la Chambre américaine des représentants a fini par approuver une aide supplémentaire de plus de 60 milliards de dollars à l'Ukraine comme réclamé depuis des mois par Joe Biden. En Équateur, un référendum a consacré hier une large victoire du oui à l'extradition des ressortissants équatoriens liés au crime organisé. Le président équatorien, Daniel Noboa, a salué un triomphe. C'était l'une des mesures proposées par son gouvernement pour tenter de mettre fin à la situation d'ultra-violence qui règne dans le pays, devenue la principale plateforme d'exportation de la cocaïne produite en Colombie et au Pérou. Cette extradition, notamment vers les États-Unis, est particulièrement crainte par les narcotrafiquants. L'Europe a connu en 2023 un nombre record de jours où la chaleur ressentie par ses habitants a été extrême, soit 46 degrés Celsius ressentis au maximum. On reviendra plus précisément sur cette annonce de l'Observatoire européen Copernicus dans le journal de 8 heures. On termine ce journal par une histoire de plagiat dans le cinéma. En l'occurrence, la nouvelle production française de Netflix intitulée Sous la scène est attendue pour juin prochain. Mais sa sortie pourrait être compromise car le réalisateur français Vincent Dietschy accuse la production de lui avoir tout simplement volé son idée de scénario. Il y évoquait un poisson dangereux dans la scène qui menace la tenue des Jeux Olympiques dans la capitale. Or, le film de Netflix évoque, lui, une menace de requin en marge d'une compétition de triathlon, des éléments très similaires. L'affaire révélée dans les colonnes du Monde met aussi en lumière les difficultés d'appréhender dans le droit les suspicions de vol d'idées artistiques. Jeanne Serrin.
Annoncé comme le film de requin le plus attendu de l'année, Vincent Dietschy tombe des nues quand il découvre le résumé du film Sous la scène, une intrigue qui ressemble selon lui en tout point au projet qu'il tente de développer depuis plus de 10 ans, Sciure. Ses doutes se confirment quand il apprend qu'une des personnes avec qui il collaborait travaille sur le film hébergé par Netflix, un faisceau d'indices qui prouve selon lui le vol de son idée par les producteurs Sébastien Auchert et Édouard Dupré. Eux défendent une idée originale.
On est fans de genre tous les deux. Donc les requins, il y en a tous les 3 mois dans les marchés du film.
Je ne vois pas en quoi notre projet empêche d'autres projets de se faire.
Vincent Dietschy est lui convaincu qu'il ne pourra désormais plus réaliser son film. Il poursuit donc les producteurs pour parasitisme, une forme de concurrence déloyale. Le vol d'idées n'étant pas protégé par le droit d'auteur, rappelle l'avocate Agnès Tricouard, spécialiste en propriété intellectuelle.
Il faut savoir que le droit d'auteur protège les formes originales et pas les idées qui sont, dit-on, de libre parcours.
Pour l'avocate de Vincent Dietschy, Héloïse de Castelnau, c'est le fonctionnement même du financement du cinéma qui expose les auteurs au risque de se faire voler leurs idées.
Quand quelqu'un écrit un scénario, il passe dans des commissions, il commence à chercher des producteurs. Donc en fait, à un moment, son travail sort au grand jour. Il y a des producteurs qui en fait se servent et puis vont un peu changer les choses. C'est un problème systémique, c'est-à-dire que les auteurs sont, je pense, assez isolés. C'est impossible de se défendre, ne serait-ce que parce qu'ils veulent travailler après.
L'audience pour l'assignation d'actes de parasitisme doit avoir lieu le 16 mai prochain. Mais le juge pourrait avant cela décider de décaler la sortie du film Sous la scène, le temps de l'enquête.
Le temps de ce lundi averse sur le nord et l'est, belles éclaircies sur le reste du pays. Il fait frais aujourd'hui encore, ce matin 0 à 6 degrés. De 8 à 12 du Massif central cet après-midi jusqu'au nord, de 12 à 16 dans le sud. C'est la fin de ce journal et la suite des Matins de Culture avec vous Guillaume Herdin.
Merci Anne-Laure Chouin. Dans quelques secondes, la question du jour de Marguerite Caton. Les EHPAD publics risquent-ils la faillite? Et à